si vous voulez, nous allons reprendre les uns et les autres, continuer à contempler la Vierge Marie, en particulier dans l'Évangile, autour de ce thème, la servante du Seigneur, Marie, servante ou reine. Thérèse dira, elle a été plus mère que reine. Et Marie, est, je dirais bien sûr, nous la contemplons comme la reine du ciel, mais dès que nous ouvrons l'Évangile, la première parole que nous allons entendre à la fin de l'Annonciation, voici la servante du Seigneur. Alors c'est un mot complexe, je vous le dirai, c'est doulé en grec, qui est un acte de consécration, c'est-à-dire je t'appartiens Seigneur. Doulé, ça veut dire esclave. C'est encore pire que le mot servante, oui. Mais elle veut dire, je t'offre ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, Saint Ignace. C'est-à-dire, elle se consacre totalement au Seigneur. Alors, on va partir d'un texte que vous connaissez, bien sûr, les textes de l'Évangile concernant la Vierge Marie, vous les connaissez. Mais d'abord, contempler Marie à Nazareth. Et ce qui est étonnant, c'est que avec Zacharie, tout commence au temple. Avec Marie, tout commence dans une maison. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Marie, c'est Notre-Dame de tous les jours. Et elle accueillit l'envoyé de Dieu, non pas en cours d'un pèlerinage à Jérusalem, mais chez elle. Luc insiste beaucoup sur cette dimension de la maison. Bon, vous vivez cette spiritualité des maisonnées, et des fraternités, etc. Et la maison, c'est toujours le lieu, en tout cas, le lieu d'accueil de la présence du Seigneur. Saint Luc, nous allons prendre bien sûr le texte de Saint Luc, hein, vous connaissez Luc 1, 26, 38, mais son évangile commence, enfin avec Marie, dans une maison, se termine dans une maison, Emmaüs, vous voyez. Donc, Jésus ressuscité apparaît, vraiment se révèle dans une maison. Tous les actes des apôtres commencent dans une maison, le cénacle, avec Marie. Et tout se termine dans une maison à Rome, où Paul a loué un logement, tout simplement. Donc vous voyez comment la bonne nouvelle se répand de maison en maison. C'est quelque chose qui est important parce que, bien sûr que le rassemblement, la messe de ce matin, c'est fondamental. Mais Dieu se révèle d'abord dans une maison. Or la maison, c'est le lieu où nous sommes nous-mêmes. Descends de ton arbre, il me faut demeurer chez toi, dit Jésus à Zachée. Vous voyez, nous avons toujours l'impression qu'il faut aller, c'est normal, comme dans toutes les religions du monde. Le christianisme est la seule religion au monde qui sanctifie le quotidien. Jésus n'a pas pris un beau cadeau d'anniversaire, ni des tartelettes aux fraises pour l'Eucharistie. Il y aurait beaucoup plus de monde. Le pain, ce qu'il y a de plus quotidien. Donc c'est toute notre vie, c'est pas uniquement, je dirais, au cours d'un rassemblement, c'est important, c'est pas uniquement quand je vais à l'église, ça veut dire que l'église, c'est mon cœur. Dieu veut venir habiter ma vie. Et là où je suis moi-même, c'est chez moi. Allez, chez moi. Voilà. Donc pour un jeune, ça sera sa chambre, etc. Hein? Vous, je pense que c'est votre maison, votre logement, votre appartement, voilà. Donc c'est là où l'envoyé de Dieu vient rencontrer Marie. Il entra chez elle. Ça veut dire que, pour prendre une image, la porte, elle était ouverte. D'ailleurs, Fra Angelico nous montre dans l'Annonciation Marie assise sur un tabouret et l'ange est là, il y a un petit jardin, l'ange est là où s'incline, la porte est ouverte. Alors, pour prendre une image, on pourrait dire que la clinche est à l'intérieur. Dehors, il n'y a pas de clinche. Dieu frappe à la porte, mais il ne peut pas venir si je n'ai pas ouvert. Dieu est souvent présent, mais je suis absent. Dieu est souvent présent, il me visite continuellement, mais c'est moi qui suis absent. Hein? Donc vous sentez bien que Marie va nous révéler que ce qu'elle a vécu, une annonciation, c'est aussi pour nous. Alors, on va voir qu'en effet, non pas pour l'efficacité spirituelle, pour la fécondité spirituelle. Il y a une sacrée nuance entre l'efficacité et la fécondité. Il y a des choses extraordinaires qui se vivent. Est-ce que ça va durer? Ah, la fécondité se passe dans la durée. Et donc attention, dans la vie spirituelle, il faut compter avec le temps. Et ce n'est pas en tirant sur les poireaux qu'on les fait pousser plus vite, vous le savez. Donc le Seigneur, il aime le temps, et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Hein? Donc là encore, Marie va nous éduquer. C'est vraiment une éducatrice, oui, une mère. Et quand on se confie à Marie, quelque part, elle nous soutient dans nos croix, oui, comme dans, je dirais, dans nos joies. Alors la première parole, c'est, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est comblé de grâce, réjouis-toi, hein, vous prenez souvent plutôt cette expression qui est tout à fait légitime, hein. Réjouis-toi, comblé de grâce, et là encore, le Seigneur est avec toi, voilà. Vous sentez que Marie entend cette parole et c'est ce qu'elle veut nous dire. N'aie pas peur, vous voyez, c'est une phrase de Thérèse, hein, qu'elle a reprise. Laisse-toi regarder par le Christ, etc. C'est une phrase de Thérèse de Lisieux. Mais Marie va entendre soit la parole que va lui dire l'envoyé de Dieu, soit sans crainte. Cela veut dire que ça revient 366 fois dans la Bible. Donc il y en a un pour tous les jours, même les années bissextines, vous voyez. Donc si nous nous mettons à écouter le Seigneur, hein, on va découvrir que ce qu'il veut nous donner, le plus beau cadeau que nous recevions de l'Esprit Saint, et je pense que vous en êtes quand même témoin, c'est la confiance. D'où Thérèse redira toujours la confiance, rien que la confiance. Voilà le premier cadeau, le premier don que nous recevons. Vous voyez, que Marie a reçu en notre nom. Et là encore, la crainte, le curé d'Ars disait, la peur, c'est l'œuvre du diable. Ce contexte que nous vivons, reconnaissons-le, on est travaillé par les forces du mal actuellement. Vous voyez, il y a non seulement la nature qui s'en charge, mais il y a aussi tout ce climat d'angoisse. Je vous disais combien je rencontre de personnes, même d'aller les visiter. Oh ben non, on préfère pas, on a peur. On a peur. On pourrait être victime du Covid. Bon, surtout que des fois je dis, ben moi je suis vacciné comme vous, hein. Donc, bon. Mais non, non, non. Il y a une peur qui s'installe. Ça, c'est pas l'œuvre du Seigneur, vous voyez. La peur n'est jamais l'œuvre du Seigneur. C'est le malin, hein. Et il veut nous séparer toujours de Dieu. Lui, c'est son seul et unique but. Vous voyez ? Donc, quelles que soient les circonstances, bien sûr. Alors, sois sans crainte. C'est, n'aie pas peur. Et donc, chaque matin, hein, voilà, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte. Et tu as trouvé grâce. Alors, quel est ce don ? Vous voyez ? Je dirais, c'est déjà la réconciliation avec soi-même. Bon, j'ai déjà un certain âge, 76 ans, quand on vieillit, on a du mal à se supporter. Hein? Déjà se réconcilier. Alors le danger, vous voyez, on l'a vécu, on en souffre beaucoup, c'est de se mettre, quelqu'un sur un piédestal. Ça, ça n'a rien de très évangélique, vous voyez. Quand on canonise quelqu'un avant sa mort, et en général, ceux que l'Église canonise, ils n'ont jamais fait de bruit, parce que le bien ne fait pas de bruit. C'est l'humilité. Et j'admire que vous ayez pris ce thème, l'humilité de Dieu. C'est un très beau livre écrit il y a presque 50 ans par le Père Varillon. L'humilité. Et vous savez ce que disait Thérèse d'Avila ? Il faut passer par beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. Ben, à l'Église, on y a plein. Et on ne peut pas faire le malin, on n'est plus les premiers. Ce qu'on vit, puisqu'on va vivre là, avec le rapport qui va apparaître au mois de septembre, on va en reprendre, nous les évêques et tous les catholiques, plein la figure, hein, tous les abus qu'il y a eu dans l'Église. Les abus de pouvoir, abus sexuels, abus spirituels, tous les gourous qui se sont installés, voyez, tout ça au nom de l'Esprit Saint, ils étaient directement branchés sur l'Esprit Saint, ils avaient de la chance, hein. Et donc quelque part, ben, on va voir, hein, ce que ça produit. Dieu se sert des médiations humaines, attention, l'Église est ce qu'elle est, mais Dieu parle par l'Église et par ses responsables, quels qu'ils soient. Après, le Seigneur, il est capable de prier pour la conversion des responsables. Mais ça, et on a voulu passer à côté, devant accompagner un certain nombre de personnes, je l'ai fait déjà depuis une quinzaine d'années, qui ont été les victimes de l'Église, et je les appellerai comme ça, ben, je peux vous dire qu'on en prend plein la figure, et puis il y en a qui, c'est terminé, je veux dire, hein, c'est... et même parfois qui s'éloignent du Seigneur. Donc, là encore, l'humilité. Marie nous conduit toujours à l'humilité. Là où il y a l'humilité, il risque d'avoir l'Esprit Saint. Voyez. Tandis que l'esprit malin, il s'insère toujours dans le pouvoir. Voyez, non. Restons à notre place, à notre juste place. Pas sous la table, mais pas sur la table non plus. À la table, simplement, à notre juste place. Eh bien, Marie, c'est ce qu'elle nous dit. Et ça, cette paix, cette joie, c'est le fruit d'un oui qu'on dit au Seigneur. Vous êtes tous passés par la croix, vous y passerez, rassurez-vous. Ça fait partie du chemin spirituel, du chemin chrétien. Et donc, quelque part, le Seigneur est là. Il l'a connu, la croix. Je vous donne un exemple, mais de la vie spirituelle, j'ai prêché aussi des retraites dernièrement à des moines, des bénédictins, hein, de Saint-Benoît-sur-Loire. Et puis, dans la tradition bénédictine, on dit souvent cela, c'était un moine qui se plaignait au Seigneur dans sa prière. Mais la croix que tu m'as donnée à porter, elle est trop lourde. Il fallait supporter ses frères. Et bon, c'est pas parce qu'on est moine, vous savez, que on est gentil tous les jours, hein. La vie communautaire, vous devinez, hein. Il y a des épines. Parfois, on est comme des hérissons. On sort les griffes. Et ce moine, dans sa prière, disait, Seigneur, je voudrais que tu changes ma croix. Je n'en peux plus. Et voilà qu'une nuit, eh bien, il a un rêve. Il voit plein de croix, des grandes, des petites, plein de croix. Et Dieu lui dit, tu choisis, puisque tu m'as demandé, tu choisis. Alors il en prend une petite, il prend celle-là, enfin, il en prend. Puis à un moment, je prends celle-là. Et Dieu lui dit, mais c'est la tienne. C'est la tienne. Oui, c'est la croix qu'on a apportée, on croit toujours qu'elle est la plus lourde. Mais non. Non, le Seigneur nous donne la force de porter notre croix. Voyez, c'est ça, il s'engage. Je serai avec toi. Voilà, mais les forces de mort sont là. On ne peut pas les nier, vous voyez. Les forces du mal. Et au baptême, on renonce. Les catéchumènes, j'ai accompagné pendant 10 ans au niveau national comme évêque, les catéchumènes, et je disais toujours, avant votre baptême, au moment de, après l'appel décisif, vous allez vivre un véritable combat. Ça va se déchaîner. Ne vous étonnez pas. Eh ? Ne vous étonnez pas. Hein ? Mais le Seigneur, il est là. Et si tu tiens la Vierge Marie, vous voyez, chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est elle qui échappe, qui écrase la tête du serpent. Voilà. C'est elle qui éloigne. Quand Marie est là, le malin ne vient pas. Et il s'éloigne. Il ne la supporte pas. Hein? Donc quelque part, vous sentez bien que cette joie, c'est pas la tranquillité, c'est pas fous-moi la paix. Hein? Non. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est un combat. Hein? Donc quelque part, elle est là, elle l'a vécu en notre nom, hein? Mais elle, elle a dit oui. Elle a dit oui de tout son être. Et je revois encore, c'était une jeune fille qui m'a dit, elle a eu la chance de dire oui. Moi, je ne sais pas, je me sens appelé à une vie religieuse, mais j'ai du mal à dire oui. Et elle me dit, elle a dit oui entièrement. Oui. Elle a dit oui totalement à Dieu. Bien, là encore, je dirais, c'est cette grâce qu'elle veut nous donner, hein, de tenir bon dans la foi. Or, la source de sa foi, c'est cette confiance dans le Seigneur. Voyez, voilà, c'est cette joie profonde qui peut être la paix du cœur. Et Saint Paul, quand il parle des fruits de l'Esprit Saint, dans les Galates au chapitre 5, 22, c'est l'amour d'abord, mais tout de suite après il met la joie. Et ça, je pense qu'à travers les manuels, à travers le renouveau, ce qu'on a connu, ça a été cette joie. Et quand il y a la louange, on va le rejoindre, hein, Luc commence par le cantique aussi de Marie et celui de Zacharie. La louange est au cœur de la vie chrétienne. C'est vrai que le renouveau nous a permis de redécouvrir ce qu'était la louange. Elle libère en nous une joie profonde. Ce n'est pas uniquement de l'exubérance. On peut être en joie profonde sans faire de gestes ou autre. Mais il y a une véritable, ça vous l'avez expérimenté, je pense, il y a une véritable joie profonde. C'est-à-dire, c'est une paix confiante, vous voyez, sans tomber dans l'exubérance, etc. Hein? Voilà ce que, sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et donc, on perçoit dans Angelico, par exemple, Marie qui est tout à l'écoute de l'envoyé de Dieu. Virga audiens, a dit le pape Paul VI, la Vierge qui écoute. Oui. Et ça, c'est très beau. La grâce qui nous est donnée, que Marie voudrait nous donner, c'est pas seulement d'entendre. On entend avec ses oreilles, on écoute avec son cœur. Et on grandit dans la vie à la mesure des regards de confiance que l'on a posés sur nous. Ce que j'aime dans la jeune génération, voyez-vous, moi je suis de l'ancienne génération. Nous, ça passait, moi, ça passait par mes oreilles. Aujourd'hui, les jeunes, ça passe par les yeux. Et acceptons que leur culture ne soit plus celle des anciens. D'où l'Eucharistie, il faut que ça soit beau. On met sept cierges, on met des belles chasubles. Il faut que ce soit beau. Et qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Ce n'était pas le cas dans ma génération, l'adoration. Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Là, on regarde. Tu deviens ce que tu contemples. Moi, c'était, tu deviens ce que tu entends. Vous voyez la différence de culture? Donc, les jeunes prêtres vont être aussi en soutane et tout ça. Ben voilà. Moi, ça me choque absolument pas. Et bon, ils veulent un peu de latin, ben oui, on chante bien aussi de très beaux chants en latin. O dulcis Virgo Maria. Et le Salve Regina, quand vous voyez, ô douce Vierge Marie, que c'est beau ça, hein? C'est Saint Bernard, hein? On a fêté Saint Bernard, c'est lui qui a écrit cela, composé. Donc vous sentez bien, hein? Il y a là quelque chose, Marie est celle qui est à la fois celle qui écoute, mais aussi celle qui voit, oui? Celle qui contemple, Et aujourd'hui, je pense que on a besoin de contempler du beau, parce que notre société, c'est tellement parfois vulgaire. Et donc là encore, Marie est celle qui contemple Dieu, d'où les icônes chez nos frères et sœurs qui orthodoxes, l'importance des icônes. Et donc la réponse de Marie, elle est silencieuse, elle écoute l'envoyé de Dieu. Mais on a le droit de poser à Dieu des questions. Il nous laisse libre, hein. Elle va demander, mais comment ? Voici que tu concevras un fils. Qu'est-ce que veut nous donner le Seigneur ? Sur cette terre, nous ne sommes que des semences. Vous voyez ? Donc quelque part, nous ne sommes pas appelés tout de suite à produire du fruit, nous sommes appelés à accueillir. La première dimension de la vie spirituelle, c'est pas « je me donne », c'est tellement ambigu. Il m'arrivait de dire à des personnes « attendez, là vous avez pris le pouvoir ». Je vous donne un petit exemple. Dans une des cathédrales, un jour, la sacristine, il y avait qu'elle qui avait la clé. Elle me dit « Monseigneur, vous savez, j'en ai vu passer ici des évêques. Hein. » C'est-à-dire « je suis la patronne, hein. C'est mon affaire ». Méfions-nous, je me donne, je me donne, je me donne, ça veut dire je t'étouffe. Il m'arrivait de dire à des personnes, écoutez madame, vous n'avez pas été assez aimée dans votre enfance. Apprenez à recevoir. Le pauvre de l'évangile, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui apprend à recevoir de Dieu et des autres. Donc, on peut rendre un service dans l'église et avoir un pouvoir, il n'y a plus que moi. Oui, voilà. On en a fait un. Ce n'est plus un service, c'est un pouvoir. Et puis on se plaint parce qu'il n'y a personne qui vient, qui veut nous aider, mais forcément, on a mis tout le monde dehors. Et ceux qui veulent nous aider, ben, pff, non. Donc attention, Marie est celle qui reçoit, qui apprend à recevoir de Dieu. Donc la première attitude dans la vie spirituelle, si nous contemplons Marie, si nous la regardons, si nous voulons l'imiter, c'est d'accueillir le don de Dieu. L'Esprit Saint, bien sûr. L'Esprit Saint viendra sur toi. Vous voyez que il est déjà présent à Nazareth avant qu'un jour il soit présent au Cénacle lors de la Pentecôte. C'est dans l'humble réalité de Nazareth que Marie accueille l'Esprit Saint. Donc cet accueil, vous le vivez dans des temps forts, mais vous le vivez aussi chez vous. Mais, donc là encore, le Seigneur vous promet, au nom déjà de votre baptême, c'est le sacerdoce baptismal, que l'Esprit Saint que vous avez reçu à votre baptême, il est là, présent chez vous, dans votre vie. Vous voyez, votre maison étant le symbole de votre cœur, tout simplement, au sens biblique. Vous voyez, de ce que vous êtes profondément. Vous êtes habité par l'Esprit Saint. Alors, la confirmation est très importante. Pour prendre une image, j'espère que vous êtes tous confirmés. Hein. Mais la confirmation, pour prendre, moi je suis un jardinier, alors j'aime bien prendre des images de la nature. Le baptême, c'est un rosier qui est en bourgeon. Voilà, il y a tout au baptême. Mais la confirmation, c'est la rose qui va éclore. Il y a d'abord son odeur, la beauté. Et donc nous sommes faits pour que la foi, que l'Esprit Saint que nous avons reçu, il puisse éclore comme la rose. Voyez, une rose en bourgeon, c'est bien, c'est dommage. C'est dommage. Donc la confirmation, elle est fondamentale dans la vie chrétienne. C'est l'accomplissement, on peut dire, en effet, pour aussi rendre compte, témoigner. Et Marie est celle qui aura été, c'est Marthe Robin qui dit cela, complètement envahie de l'Esprit Saint. S'il y a quelqu'un qui a été totalement habité par l'Esprit Saint, c'est la Vierge Marie. D'où c'est elle qui sera à la Pentecôte, vous voyez. Et tous unis d'un même cœur. Il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas tous unis d'un même cœur avec Marie. Vous voyez ? Sinon, c'est du rêve. Hein. Et Marie est celle comme une mère qui rassemble ses enfants. Le plus beau cadeau qu'une maman on puisse lui faire, c'est quand elle rassemble ses enfants et qu'il voit qu'ils s'entendent. Hein. D'ailleurs, quand elle n'est plus là, souvent la famille vole en éclats. Hein. Donc là encore, Marie est vraiment cette mère qui est la mère de l'Église. C'est ainsi que le Concile Vatican II nous l'a définie. Mère de la foi, des chrétiens, des catholiques, mais des chrétiens tout simplement, et mère de l'Église. Alors, ensuite, ce que la promesse qui lui est faite, c'est « tu vas concevoir ». Donc notre mission, c'est de concevoir Dieu dans ce monde qui n'en a pas besoin. Oui. Concevoir Jésus, Dieu, est conçu à Nazareth, mais il ne va pas naître à Nazareth. Ça veut dire que la conception, c'est mon oui. La naissance, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas prise sur Dieu. Donc il va naître, Marie n'a pas eu prise sur la naissance de Dieu en elle. Bethléem, le berceau qu'elle a préparé, n'a pas servi. Vous voyez, mais elle, elle avait assez de foi, de confiance pour s'abandonner entre les mains de Dieu. Simplement, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la conception, voyez, de Dieu dans notre intériorité, à accueillir sa naissance, enfin sa conception, sa naissance, elle ne nous appartient pas. Il naîtra, il se révélera là où il le veut. Mais il ne peut pas se révéler si je ne l'ai pas accueilli en moi, voyez. Donc c'est une fécondité à laquelle on est appelé tous. D'où dans la Bible, ça commence avec Sarah, ça commence avec Élisabeth, des femmes stériles, etc. La conception de Dieu dans notre vie, ça ne dépend pas de nous. On n'a aucune maîtrise. Simplement, c'est notre oui. Dieu ne peut pas être conçu en nous, grandir en nous, et un jour se révéler à travers nous, s'il n'y a pas ce oui. C'est pas un prosternement d'esclave, c'est un oui libre. Dieu attend de chacun d'entre nous le oui de Marie. Veux-tu me laisser naître en toi? Ah ben ça va bousculer mais pas mal de choses, Seigneur. Oui, comme la femme qui tombe enceinte, ça bouscule beaucoup de choses. Ben oui. Quand Dieu naît en nous, ça bouscule des choses. Oui. Mais on verra que, à travers ce oui, il nous donne des sécurités. Nous grandissons dans la confiance. Parce que la fécondité dans la Bible, c'est le domaine de la foi. Dieu ne peut pas naître parmi les hommes sans notre foi. Il nous est demandé de croire pour au nom de ceux qui ne croient pas. Il nous est demandé de croire au nom de ceux qui ne croient pas. Je donne un exemple, je pourrais vous donner beaucoup de témoignages, mais je me rappellerai toujours, j'étais à Condette, aux Tourelles, et une maman arrive un samedi soir, pour la messe du samedi soir, tout en larmes. J'étais à l'entrée, j'accueillais les personnes, et je lui dis, madame, mais c'est quelque chose de grave qui s'est passé, je vous vois en larmes. Oh non, 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 mais je suis en colère, ah bon? Ben oui, mon fils, là, de 14 ans, il n'a pas voulu venir avec moi. Oh ben c'est... Non, non, il m'a laissé... Je suis en colère. Alors je lui dis, madame, bon, il est là. Il est là. Ah bon? Il est venu? Non, il est là parce que vous êtes là. Il est là parce que vous êtes là. Vous êtes là au nom de votre fils. Vous êtes là au nom de votre fille ou au nom de vous. Voilà. C'est vous. Après, c'est l'affaire du Seigneur. Hein? Vous priez, vous offrez dans cette Eucharistie pour que le Seigneur touche son cœur. Hein? C'est si vrai que j'ai rencontré des jeunes, j'étais à Rome, à Saint-Pierre, je me rappellerai toujours, avec j'étais environ, chaque année j'allais à Rome et Assise avec environ 250 jeunes et une trentaine d'adultes qui les accompagnaient, et je vois toujours ce jeune, je dis mais non, t'es pas encore en retard, puis il me répond, bah, c'est bien la première fois que je me précipite pour aller à la messe. Bah, je dis, bah voilà, ça c'est une grâce que t'as reçue, une grâce, oui. Il était heureux de venir. Bon, donc là encore, c'est ce que nous recevons de la confiance, oui. C'est l'élément fondateur de la vie. Or, Marie a reçu, à travers l'Esprit Saint, cette confiance. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Voyez, l'Esprit Saint qui couvre Marie de son ombre dans le silence. Voyez, ce n'est pas une absence, c'est un trop-plein de présence. Pour vous donner une image, je suis aussi allé à un abat, j'ai emmené des jeunes. C'était quand j'étais sur Saint-Paul, puis l'aumônerie des étudiants, etc. Bon, il y a plus de 40 ans. Et là encore, je me souviendrai toujours, c'est Saint-Augustin, on était en Algérie, en 70, par là. Et je me rappellerai toujours Saint-Augustin qui essaie de faire comprendre ce qu'est l'Esprit-Saint. Et donc, il prend l'image que nous connaissons tous, de cet enfant, vous savez, au bord de la plage, qui creuse un trou dans le sable et qui, avec son petit seau, voudrait vider la mer. L'Esprit Saint, c'est la mer. Ça nous dépasse. Nous, nous avons notre petit seau, et pour prendre, mais c'est rien. C'est rien. Donc le silence de Dieu, c'est pas une absence. C'est un trop-plein de présence. Parce que nous n'avons pas, humainement, les capacités d'accueillir. C'est une telle force, une telle présence. Donc, Marie va dire, mais elle est honnête, Marie. Hein, comment cela va-t-il se faire? Tu m'annonces une naissance, et je ne connais point d'homme. Voilà. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà. Donc là encore, cette conception, voyez-vous, est fondamentale. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Mais il ne peut pas être conçu sans ce oui total, qui est l'abandon. Alors vous allez dire, mais l'abandon, c'est facile. Non, c'est un combat de s'abandonner entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est comme le petit enfant, le petit... Hier, j'ai baptisé un bébé de quelques jours, et quand il est sorti du ventre de sa mère, ça a été le moment le plus difficile. Mais s'il ne s'était pas abandonné entre les bras de sa maman, il grandirait pas, il s'humaniserait pas. C'est quand on s'abandonne entre les mains du Père qu'il peut nous faire naître à sa vie. Voyez. Or, c'est la grâce qu'a reçue Marie. Dans la foi, modèle de la foi. Voyez. Elle a posé des questions, comment cela va-t-il se faire? Mais elle va répondre que la volonté de Dieu se fasse. Enfin, on va le voir à travers cette expression, je suis la servante du Seigneur. Voyez. Mais Dieu nous donne toujours des signes concrets. Et ça, regardez bien, quand vous avez dit oui au Seigneur, ce qu'il vous a donné, des amis dans la foi, des frères et des sœurs dans la foi. Ça, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous donne. Je pense que chacun et chacune d'entre vous pourriez le dire, quel est ce cadeau que va faire le Seigneur, Élisabeth. Jusqu'alors, c'était une cousine. Elle va partir pour l'aider, elle est beaucoup plus âgée. Vous voyez, elle aussi est enceinte, mais elle est déjà bien âgée. Et donc Marie part pour lui donner un coup de main, c'est normal, pour l'aider. Et là, elle rencontre non seulement une confirmation de ce oui qu'elle a dit, bien heureuse, c'est ça la reine, bien heureuse. bienheureuse, toi qui as cru. Vous voyez, Dieu confirme par des médiations humaines le oui que nous lui avons dit. Et s'il faut toujours regarder de ce côté-là. Donc Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Ça, c'est une évidence. On a besoin de vrais amis, pas uniquement pour l'apéro, hein, ça c'est facile, mais de vrais amis, mais qui deviennent des frères et des sœurs, qui sont parfois plus des frères et des sœurs que nos frères et sœurs de sanguins, de notre famille. Et ça, c'est le plus beau cadeau de Dieu. Voyez, c'est le plus... Élisabeth, ce n'est plus une cousine, même si elle demeure une cousine, bien sûr. C'est une sœur dans la foi. Voilà ce que Dieu donne et à travers Marie. Et sans abuser de votre temps, on va terminer par cette phrase, hein, je suis la servante du Seigneur. Et c'est, alors ce mot-là, bon, on peut dire, je suis Seigneur, je t'appartiens. Voilà. Et elle redira le Seigneur dans le Magnificat, vous voyez, cette première prière de louange. La prière de louange qu'on a, c'est celle à la limite de Marie. Vous voyez, dans l'Évangile, on a un modèle de louange. Marie s'oublie très vite. Elle s'adresse, mon âme exalte le Seigneur. Et puis après, ce n'est plus elle, elle ne parle plus d'elle. Il a fait ceci. Il a, à travers les âges, il a toujours été, exactement, le puissant, fit pour moi des merveilles, puis saint nom est son nom. On loue Dieu parce qu'il est Père, vous voyez. Puis on arrête de se regarder, sinon c'est encore notre ego qui est là, hein. Donc la louange nous décentre de nous-mêmes. C'est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Mais une femme qui soit servante, aujourd'hui on dirait arrêtez, hein. On a déjà entendu saint Paul, enfin il faudrait beaucoup expliquer d'ailleurs saint Paul, hein. Il n'a jamais dit que la femme devait se soumettre à son mari, se mettre sous obédirait, à l'écoute. Mais le mari, il doit donner sa vie aussi pour être à l'écoute de sa femme. Enfin, il y a une réciprocité, hein. Bon, mais Marie dit, je suis la servante, doulé en grec, c'est-à-dire esclave. C'est un mot qu'on ne peut plus dire. Mais ça veut dire, je t'appartiens. Je t'offre ma liberté, tout ce que je suis. Et donc là encore, c'est extraordinaire. Elle s'apparente, on peut dire, à ce mystérieux personnage d'Isaïe, le serviteur souffrant. Mais Marie veut dire qu'elle s'est laissée aimer jusque-là, dans sa petitesse, vous voyez, en totale transparente de Dieu. Alors, là encore, quand le Concile va parler de Marie, il va beaucoup insister sur ce modèle de l'offrande. Offre-moi ce que tu es. Voilà. Nous sommes tous le fruit d'une offrande, de la part de nos parents. Mais même, je dirais, je le dis aux séminaristes, je le dis aux consacrés, vous ne seriez pas là si parmi vos ancêtres, il n'y avait pas une personne qui se soit offerte pour vous. Vous voyez ? Nous sommes tous le fruit d'une offrande, d'abord une offrande humaine de la part de nos parents, pas uniquement dans notre conception. Pour élever un enfant, vous savez bien, tous les renoncements, on meurt à son ego pour être servi, les nuits qu'on a passées, etc. Donc on est déjà humainement le fruit d'une offrande. Dans la foi, l'acte d'abandon, l'acte d'offrande, je viens de terminer une retraite avec des religieuses, voilà, à la fin de la retraite, j'invite chacune à écrire son acte d'offrande. Vous voyez, il n'y a pas de congrégation qui ne soit née sans l'acte d'offrande d'un fondateur, d'une fondatrice. Sinon, elle ne serait pas là. Hein. Donc, ce qui est fondamental dans la vie spirituelle, c'est votre acte d'offrande. C'est Marie qui présente Jésus au temple. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Anne, 84 ans, c'est symbolique, 84, c'est 12 fois 7. Ça veut dire qu'elle offre son fils aux Juifs. Vous voyez, 7, c'est le chiffre 7. 12, les 12 tribus d'Israël, et à toute l'humanité, les 7 jours de l'humanité, de la création. Le chiffre 7 symbolise l'ensemble, hein, et 12, c'est le peuple juif. Donc quand elle offre son acte d'offrande, d'où le 2 février, fête de la consécration, hein, présentation de Jésus, tous les consacrés renouvellent leur acte d'offrande ce jour-là. Eh bien, dans cet acte d'offrande, Dieu se révèle au monde. Donc Dieu ne pourra pas se révéler au monde sans votre acte d'offrande. Ça, c'est évident. C'est au nom de votre baptême, mes frères et sœurs. Ça s'appelle le sacerdoce baptismal. Vous êtes prêtre, prophète et roi, les trois. Mais ça, le baptême est le fondement de votre vie spirituelle. Et ça, c'est Marie nous montre. Et ce qui est très beau, je termine, hein, parce que l'ange la quitta. Il n'y aura plus aucune révélation. Jusqu'à la croix et la Pentecôte, Marie va vivre de foi, dans la foi, simplement. Il n'y a plus un ange qui vient, elle n'a plus de révélation, elle fait confiance à Dieu et à son Fils. Oui. Modèle de la foi, la grâce que vous pouvez demander à la Vierge Marie pour ce temps qui est le nôtre, hein, qui est dur, hein. Faut reconnaître que c'est dur, hein. Eh bien c'est la foi. Oui. Saint Marie, oui, nous donne cette grâce de tenir bon dans la foi. Alors quand j'entends des jeunes qui disent « À l'église, il n'y a que des vieux. » Je dis « Arrête. D'abord, si tu viens, il y aura un peu moins de vieux. Il y en aura un peu moins. Mais dis plutôt « À l'église, il y a ceux qui ont tenu bon dans la foi. » Eh ben, il y a un jeune, je crois que j'étais assise, il m'a dit « Ben, je vais envoyer une carte à ma grand-mère pour la remercier d'avoir tenu bon dans la foi. » Et ça, c'est une grâce que nous donne la Vierge Marie. Combien de personnes, que ce soit dans le Boulonnais, que je connais bien, ont tenu bon grâce à elle. Grâce à elle, oui. On ne le voit pas tout ça. Hein. Et Dieu sait, j'ai rencontré aussi des femmes de marins qui avaient parfois perdu le mari en mer, etc. Quelle fidélité! Elles ont tenu bon dans la foi, grâce à la Vierge Marie. Oui. C'est une grâce qu'elle veut nous donner. Et demandez-lui cette grâce.